veut nous taire, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir à vous qui écoutez le 102.2 de la bande FM ou le radiocanu.org. Il est 22h et c'est donc l'heure de la causerie comme presque tous les dimanches. Et bien ce soir dans les studios, nous avons Fab.
Bonsoir Jean-Yves qui fait la technique ce soir.
Bonsoir.
Et on sera que tous les deux.
Tout à fait. On passe un coucou à Clara.
Ben oui.
Avant de commencer comme notre habitude à causer, eh bien on va vous rappeler comment nous joindre évidemment. Si vous êtes des artistes, des auteurs, autrices...
Des associations. Si vous voulez poser un témoignage que vous pensez important pour que les gens comprennent ce qui se passe dans ce monde.
C'est ça. Et ben, vous pouvez envoyer un mail sur le mail de la causerie. Donc, pardon, c'est lacausericanu, tout attaché, lacausericanu@gmail.com. Si vous souhaitez écouter toutes les causeries passées, et il y en a un petit paquet, donc prévoyez d'avoir un peu le temps, et bien c'est sur le blog de l'émission évidemment, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Ah, disons qu'il y a environ 500 heures d'émission,
à peu près.
Donc il faut avoir du temps.
Oui, c'est ça, mais ça peut s'écouter en plusieurs fois, évidemment. Quoi d'autre? On est aussi sur un réseau socio-commercial, mais c'est simplement les podcasts qu'on partage là-bas, comme d'autres le font sur d'autres réseaux pas commerciaux, et on remercie ces personnes qui nous partagent sans que ce ne soit nous et sans qu'on les connaisse forcément, donc
bah
c'est
ouais,
très
c'est
plaisant
cool.
Merci beaucoup à vous. Et ben je crois que j'ai tout dit. On est aussi sur les structures de
balado diffusion.
Tu
le fais à chaque fois ça.
Oui, bah oui, c'est toi qui l'as fait à chaque fois, donc je me dis je te grille la priorité. Et donc
des podcasts donc en
oui
fait.
Tout à fait, des podcasts. Voilà. Et ben comme le disait donc notre chère Nadia en fin de générique, bah je crois que c'est parti.
Ouais. Oh là là.
Ouais, alors on prévient, il fait encore très chaud dans les studios. On essaie vraiment de faire au mieux, d'être sérieux, etc. Mais des fois, la chaleur fait que les cerveaux ont un peu du mal à suivre. Donc
ça
ne
bouillonne.
Nous en voulez pas et soyez comment on dit
indulgent
et indulgente. Merci beaucoup. Et donc Fab, ce soir toi tu vas nous parler pétrole pas cher, tout ça quoi.
Ouais, je vais vous parler du pétrole. Alors du peak oil plus précisément,
yes.
Et en fait de la fin du pétrole pas cher. Alors j'aurais pu mettre Rock the Casbah comme musique de fond en introduction de ce générique, mais non. Voilà. Alors vous avez remarqué, hein, c'est pas trop la joie à la pompe ces temps-ci. Hein. Vous l'aurez sans doute constaté, si vous avez une voiture, le prix de l'essence à la pompe est très élevé ces derniers temps et ne semble pas redescendre. Alors, quand je dis essence, c'est tout confondu. Hein. 98, 95, oui. GPL, gasoil, tout ce qui va dans la station essence. Enfin, ça descend parfois un peu, puis ça repart à la hausse. Alors si vous êtes observateur ou observatrice, vous aurez noté que tout ce qui contient du plastique a aussi augmenté ces derniers temps, voilà. Tout a pris, en fait, ça a grimpé, quoi. Et bien cela, en fait, c'est lié à un pétrole qui est cher et qui va, en fait, le rester, tout simplement. Au départ, c'est la guerre en Ukraine, hein, qui a été mise en avant pour expliquer cela. Vous vous rappelez, on vous expliquait, c'est la guerre en Ukraine. Voilà. Si c'est partiellement vrai, parce qu'effectivement, quand il y a une guerre, bah, il y a un besoin très élevé, malheureusement, en produits pétroliers, parce que un tank, ça prend beaucoup de pétrole pour avancer. En fait, ça n'explique pas toute l'augmentation aujourd'hui du prix du pétrole. Et ce soir, je vous propose donc qu'on tente de balayer un peu les autres raisons de cette matière première incontournable qu'est le pétrole et de son prix actuel. Alors le pétrole, en fait, il est au cœur de tout, hein, comme on l'a déjà abordé dans la causerie plusieurs fois. Il faut se souvenir que le pétrole est au cœur de toute la modernité. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. Autrement dit, depuis sa découverte, la place du pétrole est devenue centrale dans nos modes de vie. Voilà. Que ce soit pour l'essence, donc tout le point, le gasoil, le plastique, mais aussi les médicaments qui sont, je vous le rappelle, à base de produits issus du pétrole, sauf les médicaments biologiques, mais bon, en tout cas, les médicaments chimiques sont à base de produits issus du pétrole, les plastiques, les engrais, les purificateurs d'eau, les lubrifiants, etc., etc., etc. Donc on voit que, en gros, le pétrole, il est partout. Et comme le soulignait,
il est central, quoi. Ouais.
Bah oui, et comme le soulignait un rapport du CNRS, on va pas prendre les CNRS non plus pour des gens pas intelligents, parce que souvent ils sont plutôt intelligents. Aujourd'hui, la vie d'un être humain sur cette planète est liée au pétrole pour au moins 70% de ses activités. C'est énorme. Hein.
Oui, il est plus que central. Quoi.
Voilà, c'est-à-dire que voilà, ce qui est juste énorme, c'est-à-dire qu'en fait, alors bien sûr, là vous allez me dire, parce que tout le monde n'a pas de voiture, tout ça. Non, en fait, le pétrole. Donc, vous avez un vélo, vous êtes content d'avoir un vélo, vous avez des pneus sur le vélo, le pneu il est en pétrole. Voilà. Vous avez un téléphone portable, il y a du plastique dedans, c'est du pétrole. Enfin voilà, ainsi de suite.
Donc c'est partout et c'est quel que soit, on va dire notre style de vie ou
ouais c'est ça, c'est à partir du moment où vous avez des outils manufacturés qui peuvent contenir potentiellement du plastique ou qui ont été plastifiés ou que vous avez des pneus, des choses comme ça, mais en fait vous avez du pétrole, voilà, c'est comme ça. Alors oui, c'est pas la peine de nous écrire pour dire oui mais moi j'habite dans une forêt machin et j'ai, c'est une moyenne, hein, voilà, donc on se calme tout de suite. Et donc le pétrole est cher. Voilà. Et donc, quand le pétrole est cher, c'est toute la vie qui devient trop cher, du coup. Tout simplement. Alors, en ce moment, on va parler un peu capitalisme, hein, ça va faire mal aux oreilles de nos auditrices et nos auditeurs, mais en ce moment, on a un baril à 80 dollars. Alors, oui, on a un baril à 80 dollars. C'est souvent cette petite voix sur les radios qui disent, et en ce moment, le baril est à 80 dollars sur le stock exchange. Voilà.
Ça ressemble à ça, effectivement.
Donc, en fait, moi, sur l'essence, personnellement, en ce moment, j'entends bien la petite musique. Surtout la petite musique d'extrême droite. Si on enlève les taxes, ça redescend. Alors, c'est vrai, mais pas autant que ce qu'on pense. Voilà, un petit peu arrêter le fantasme, là, de ce côté-là. C'est vrai que ça va redescendre. Hein. Sur un litre de sans-plomb 95, par exemple, cela le ferait passer de 1,98, hein, ce qu'il est aujourd'hui, à 1,73. Bon, ok, hein, si on mettait la TVA à 5,5%. Alors oui, c'est une respiration, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais c'est oublié qu'il y a encore peu de temps, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10 ans, le litre était en moyenne à 1,35€, hein, et pas 1,75€. Oui, ah là là. Qu'est-ce qui explique cela? C'est tout simplement le manque de pétrole. Ah ah, oui, on y vient. Hein. Parce que c'est là qu'est le vrai souci. On manque de pétrole aujourd'hui. Souvenez-vous de vos cours de SVT ou de biologie si vous en avez eu. Ouais, j'aime bien vous renvoyer à votre enfance.
En tout cas, notre jeunesse. Quoi.
Voilà. On vous y a expliqué que le pétrole était en fait des arbres, des animaux et autres matières biologiques fossilisées selon certaines conditions qui ont donné du pétrole. Voilà, c'est-à-dire un ensemble de molécules plus ou moins légères. Voilà, c'est ça le pétrole. Hein, voilà. Et donc, que cette matière n'était pas renouvelable, car les conditions pour y arriver, des millions d'années sous terre, hein, par exemple, avec une chaleur adéquate, une pression adéquate, des sédiments corrects au départ, enfin tout ce qu'il faut pour faire du pétrole, en fait, c'était pas reproductible, tout simplement, pas fabriquer du pétrole. Voilà, enfin, on pourrait, mais ce serait très compliqué, puis ce serait très énergivore, donc ça servirait
oui,
à rien.
Oui, c'est ça.
Donc, depuis le début des années 1900, c'est-à-dire à peu près au moment où on a commencé à découvrir les puits de pétrole les plus faciles à trouver, on pense que l'on peut trouver du pétrole tout le temps et partout. Et on a vécu pendant des dizaines d'années comme si cette manne était inépuisable. Voilà. Il y a même des puits de pétrole en France, hein, je vous le rappelle. Pour ceux qui ne savent pas, en région parisienne, dans la Beauce, il y avait des champs de pétrolifères. Voilà, donc un peu partout, on trouve des... Ah, regardez, on en trouve partout.
Je crois même que la France avait inventé des avions renifleurs de pétrole.
Ouais, non, ça c'était une belle arnaque, mais effectivement,
oui, pardon,
on y a cru à une époque. sauf qu'en fait, cette manne inépuisable, elle l'est. Inépuisable, c'est con, mais c'est comme ça. C'est d'ailleurs ce que les scientifiques appellent le peak oil, ou pic du pétrole. Oil, pétrole, voilà. C'est-à-dire le moment où la production de pétrole est inférieure aux besoins et à la demande mondiale. Oui, parce que non, contrairement à ce que j'entends partout sur Internet, et notamment à l'extrême droite. Peak oil, ça veut... Oui, non, parce qu'ils sont nuls en science. Hein. Faut quand même se rendre compte qu'ils sont nuls. Mais il y a pas, j'ai pas d'autres mots.
Enfin, voilà. Si c'était qu'en science.
Ouais, ils sont humainement nuls, mais en plus en science, ils sont nuls. Bon, il y a, alors je ne citerai pas son nom, hein, mais il s'appelle Jordan Bardella, qui est en fait arrivé à la télé et qui a dit « Ouais, mais alors le peak oil, c'est pour faire peur, parce que regardez, il y a encore du pétrole. » Jordan, réfléchis deux minutes à ce que tu racontes. Un pic, comme son nom l'indique, c'est un pic, c'est le moment où on est en haut. Oui. Puis après, on redescend. Oui. Voilà, c'est comme une montagne.
Il en restera.
Voilà. Pour Jordan, on va lui expliquer. C'est comme une montagne. Il y a deux côtés.
Ouais, c'est, okay,
voilà. C'est pas un truc, t'arrives et pouf, tu tombes. Non, non, ça ne marche pas. Ça, c'est le saut à l'élastique. Rien à voir. Donc, du coup, en réalité, on a atteint le pic le plus haut de la production en rapport avec la demande. C'est ça, un pic. Ni plus, ni moins. Voilà. Donc, oui, le peak oil, c'est donc pas d'un coup, il n'y a plus de pétrole. C'est, il y en a moins, et puis il y en a de moins en moins, et puis ça descend, et ainsi de suite, vous voyez, voilà. C'est, en fait, plus, en réalité, une atteinte des limites. On a atteint les limites, en fait, de production. Et en fait, pour le pétrole dit conventionnel, eh ben, ce pic, il a été atteint en 2006. Et là, oui, oui, 2006, hein, je le redis, 2006, c'est-à-dire il y a 17 ans, hein, voilà. Alors, là, le pétrole conventionnel, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui est facile à extraire. Vous savez, on creuse un trou, généralement sur Terre, c'est-à-dire dans une zone terrestre, pas sous l'eau. Il ne faut pas trop de moyens à part creuser le trou, voilà. Et en fait, le pétrole, il est suffisamment liquide pour remonter naturellement. Il n'y a pas besoin de mettre de pompe, de trucs comme ça. Par un effet de pression, on rajoute de l'eau d'un côté, le pétrole monte de l'autre. Et en fait, en réalité, ben, il est assez liquide, ça remonte, c'est cool. C'est ce qu'on appelle le pétrole conventionnel. C'est celui qui est tout facile à trouver. Et ben, celui-là, on a atteint son pic. Pas parce que d'abord, on n'en retrouve plus, tout simplement. Et puis parce que les réserves mondiales, ben, elles s'amenuisent. À votre avis, pourquoi l'Arabie Saoudite, le Qatar et tous ces pays sont en train de diversifier leurs sources de revenus? Bah parce qu'eux, ils savent que quand ils sont assis sur un truc, en fait, eh ben, il y en a de moins en moins.
Donc, oui, c'est drôle parce
qu'ils sont pas bêtes, hein.
C'est drôle parce que quand même, je sais plus lequel des pays, mais un des pays fort producteurs de pétrole qui fait partie de l'OPEP, il y a quelques années, disait, mais non, enfin, nos sources sont pas
tarées,
on en a encore plein, etc. Et c'est quand même intéressant de regarder, effectivement, comme tu le dis, quoi, c'est d'un coup, on arrête de miser tout sur le pétrole, on essaie de diversifier les rentrées d'argent, etc. Et quand on fait ça, alors qu'on est un des principaux producteurs.
Le principal, l'OPEP, c'est le principal.
Oui, l'OPEP, si on prend l'OPEP, il y a effectivement peut-être à s'interroger sur...
Bah, oui, là, c'est la règle du capitalisme.
Oui,
quand on est assis sur une mine d'or, on ne fait pas autre chose que de l'or.
Oui.
Si on se met à faire d'autres choses, c'est que d'un coup, on se dit, bah, l'or, il n'y en a plus.
L'image est très bonne, en fait.
Bah oui, donc le pétrole conventionnel, donc il est, lui, c'est out, fini. Alors, et là, vous allez me dire, parce que Jordan, je sais que tu m'écoutes. Si Jordan, il va dire, oh, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Si ça avait été vrai ce que tu dis, le prix du pétrole, il aurait explosé. Alors, mon petit, c'est pour Jordan.
Je fais la... Non, je pense qu'on parle plus largement.
Je rigole. Plus largement, eh bien oui, en fait, c'est une raison simple pour laquelle les prix n'ont pas flambé à ce moment-là. C'est que si vous n'avez pas la mémoire courte, c'est le moment où un certain Barack Obama a dit, oh, tiens, j'autorise le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Dis donc. Bah ouais, parce qu'en fait c'est venu compenser en réalité l'augmentation du prix du pétrole et en fait la diminution des volumes de pétrole disponibles. Et donc on a allé balancer des tas de saloperies sous terre pour récupérer. C'est les USA qui vont se lancer à corps perdu dans le pétrole et gaz de schiste, accompagné du Canada aussi accessoirement et du Royaume-Uni. Et donc vous savez, c'est une méthode quand même qui détruit à fond l'environnement, hein, encore plus vite, et demande des quantités d'eau encore plus hallucinantes qu'un puits de pétrole normal. Donc en fait c'est bien cette nouvelle source, hein, qui est venue compenser le manque, mais d'un point de vue environnemental, c'est de la merde. Hein.
Oui.
Voilà, mais c'est pour ça que les prix n'ont pas augmenté aussi rapidement que ce qu'ils auraient dû. Entre-temps, ont aussi été trouvés des gisements sous-marins qui permettraient de tenir encore un peu. Et quand je dis tenir encore un peu, c'est vraiment un peu, hein. C'est pas 50 ans. Hein. Mais tout ça, bah, en fait, ça a un coût, parce que là où la rentabilité d'extraction conventionnelle, donc ça, vous voyez, pour que ce soit rentable d'extraire le conventionnel, faut un baril autour de $30 le baril. Vous pouvez même descendre à $15 quand vous êtes sur un truc où ça va vite, voilà, bon. Pour ces nouvelles techniques, aller au fond de l'eau, tout ça, c'est au moins $80 le baril, parce que sinon, c'est pas rentable. Et c'est bien pour ça que nous payons l'essence plus cher, et de plus en plus cher. Et que d'ailleurs, on paye le pétrole de plus en plus cher, et les produits du pétrole de plus en plus cher. Mais surtout, la demande de pétrole, elle n'a pas faibli. L'offre diminue, mais la demande augmente. Et donc, du coup, le prix du baril ne descendra pas de sitôt. Oui, ça s'appelle le capitalisme.
Oui, c'est ça. L'offre et la demande.
Hein. Ouais. Et donc, quand il y a plus de demande que d'offres, eh ben, c'est plus cher. Voilà.
Ah oui. C'est-à-dire que comprendre le capitalisme n'est pas soutenir le capitalisme.
Non, non, tout à fait.
Ne pas comprendre le capitalisme, c'est...
Dommage.
Je trouve, ouais, c'est dommage. On va voilà. dire ça.
Donc, la Chine et l'Inde, à elles seules, ont fait exploser la demande en 20 ans en multipliant par 8 leurs besoins. Hein. Donc c'est juste énorme. Oui, parce que c'est des pays qui sont assez grands. La Chine, elle, je vous rappelle, à elle deux, elles font 2,7 milliards d'êtres humains. Hein, donc ça fait une grosse demande. Donc voilà. Et la demande, en fait, elle n'a pas diminué en Europe non plus, parce que oui, en fait, on roule de plus en plus à l'électrique, en vélo, tout ça, parce qu'on est. Hein. Mais en fait, le pétrole, il y en a aussi dans les soutes des porte-containers. Hein, et la demande des porte-containers en 30 ans pour l'Europe, ben en fait, elle a été triplée. Il y a trois fois plus de porte-containers qui arrivent en Europe qu'il y a 30 ans. Donc ben, tout ça, faut mettre du pétrole pour que ça avance, parce qu'on n'a pas encore de porte-container nucléaire. C'était pour la blague. Nous n'en donnons pas d'idée. Voilà, bref. Donc prenons un léger exemple du moment sur le pourquoi ça coûte cher. Prenons le projet ICOP de Total. Là, je sens qu'il y en a de l'autre côté de l'antenne, ils doivent... Oui, alors oui, ça m'énerve aussi le projet ICOP, je suis contre. Mais c'est juste que c'est un très bon exemple, donc on va le prendre. C'est un pipeline qui veut partir de l'Ouganda et rejoindre un port en Tanzanie. Pour pouvoir charger des super tankers. Et c'est un pipeline, en fait, qu'il va falloir chauffer. Alors, pourquoi il faut chauffer le pipeline? Parce que le pétrole qui est sous le lac Albert en Ouganda, il est plus dense que du pétrole conventionnel. C'est-à-dire qu'il y en a, mais il est plus dense.
Bon, plus épais.
Plus épais.
Moins fluide.
Ben voilà. Et un truc qui est plus épais et moins fluide, souvent, si vous le laissez refroidir, il durcit, ouais. Et il coule pas très bien. Voilà. C'est ce qu'on appelle du pétrole dentifrice. C'est son surnom.
Okay. Voilà. Oui, c'est pâteux, quoi.
Pâteux. Voilà. Donc, pour qu'il reste un petit peu liquide bien, il faut le chauffer. Donc, il faut que le pipe, le tuyau, il soit en permanence autour de 40-50 degrés. Mmh. Ouais. Donc, il doit être transformé et rester chaud. Bon, bah, c'est pas très pratique, mais n'ayons pas peur. Bon, c'est parti. Pardon. Et donc, en plus de désinguer les écosystèmes, hein, quand même, et aussi de spoiler le continent africain au passage, parce que Total, c'est quand même une boîte française, hein, on peut pas l'oublier, en fait, il n'est pas rentable, du coup, ce pétrole, si le baril redescend en dessous de 82 $. Et c'est de l'aveu même des autorités locales. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce projet n'est viable, économiquement, d'un point de vue capitalistique, je suis pas en train de parler de l'environnement ou quoi que ce soit, que si le baril de pétrole ne descend pas en dessous de 82 $. Sinon, en fait, ils perdent des sous. Et Total, ils n'iront pas perdre des sous. Vous voyez? Donc, vous aurez compris que si Total met des sous-sous dans l'ICOP pour désinguer la planète et aussi faire des profits, c'est qu'ils savent que le baril ne redescendra pas en dessous de 82 $. Sinon, ils n'iraient pas. Voilà. Parce que Total, ça reste des capitalistes. Quand même. Donc, on le voit, le prix du baril est aujourd'hui une variable incontournable et très suivie par les multinationales et les alliances de producteurs. Tu parlais de l'OPEP tout à l'heure. Alors, je vous rappelle que l'OPEP réduit régulièrement ses volumes pour maintenir le baril au plus haut. Oui. Eh ben oui. Parce que, voilà, faut que le baril soit haut pour que ça rapporte.
Bah, en même temps, quand tu détiens quelque chose que plein de gens veulent, tu tiens un peu le truc, quoi.
Donc, ne rêvez pas, amis auditrices et auditeurs, ne serait-ce que pour l'essence dans votre voiture, ben, c'est pas prêt de baisser. Voilà, je suis désolé, hein. Je suis pas une bonne nouvelle, mais voilà. D'ailleurs, je fais une parenthèse avant d'aller sur la suite. Et comment elle s'appelle? Elisabeth, je l'appelais Emmanuel, non? Elisabeth Borne, première ministre du pays, s'il vous plaît, vient de dire, nous, on autorise les revendeurs à vendre à perte. Bon, alors, ça va avoir deux effets. La première, c'est que ça va tuer toutes les stations indépendantes qui pourront pas, elles, vendre à perte, donc elles vont disparaître, hein, tout simplement. Et puis, c'est un petit peu le but derrière.
Même s'il en reste pas, à mon avis, énormément.
30% quand même, hein.
Ah ouais,
une sur trois. Donc, c'est quand même pas, surtout en
dans
campagne,
les campagnes,
dans les campagnes.
Ouais.
Donc voilà. Donc, c'est génial, hein, parce que ça veut dire que les gens dans les campagnes vont voir disparaître les stations, les dernières stations qui restaient.
Ouais. Hein, voilà. Avant de les voir investir certainement par,
des grands groupes arrivent, parce que seuls les grands groupes pourront vendre à perte. Faut pas se mentir. Et la deuxième effet, bah, c'est qu'en fait, c'est surtout parce que Elisabeth Borne, elle sait bien que si elle baisse les taxes comme tout le monde le demande, bah, on va se rendre vite compte qu'en fait, ça va pas changer grand-chose et que ça suffira pas à descendre le prix suffisamment bas. Donc, bah, là, elle tente un coup de bluff. Elle se dit, tiens, on va faire un petit truc comme ça. On va se maintenir autour de 1,82 € pendant les mois qui viennent et comme ça, les Européennes vont bien se passer. Bref, en fait, en gros, c'est un coup de bluff, faut être très clair. Et c'est surtout parce qu'elle ne veut pas avoir à expliquer politiquement que le pétrole pas cher, c'est fini. Bah oui, parce que quand on a Total, quand même,
c'est
le rond de l'industrie.
Bah oui,
donc voilà, bref, je ferme ma parenthèse. Mais c'était juste que comme ça a été annoncé aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'y aller.
Mais et puis en plus, c'est vraiment une fuite en avant, quoi.
Ah bah oui.
C'est-à-dire que vraiment, allez, on va faire un truc dans l'urgence.
On s'arrête jamais.
On va satisfaire les gens et puis après, on verra, quoi. Enfin, mais sauf qu'on ne verra jamais l'après. C'est ça qui est dingue.
C'est que
les politicards sont vraiment, en fait, ils sont vraiment dans une logique, mais comme dans les boîtes, quoi.
Mais
les entreprises, c'est-à-dire, c'est du très court terme.
On tente,
on voit, on met du sparadrap et puis on verra bien pour plus tard, quoi.
Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce pétrole cher, il va avoir un impact assez large. Je vais en parler juste maintenant. Mais ça n'a pas juste un impact sur le fait de se déplacer en bagnole. C'est un impact sur toute la vie. Comme je le rappelle, beaucoup d'aspects de votre vie dépendent du pétrole. Donc forcément, beaucoup de choses vont venir à augmenter dans les années à venir. Alors moi, dans cette histoire, c'est pas vraiment que le pétrole soit cher qui m'emmerde, bon, même si ça pose des problèmes, parce que si, en fait, pour les plus pauvres, c'est encore eux qui vont devoir serrer la ceinture et qui vont en prendre plein la gueule. Alors quand je dis les plus pauvres, c'est les plus pauvres en Europe, comme les plus pauvres, encore plus pauvres, ailleurs dans le monde, parce que tout le monde, en fait, c'est une sorte de chaîne qui est, voilà, tous les plus pauvres vont en prendre plein les dents. C'est qu'une fois de plus, en fait, alors que les scientifiques alertaient, je le rappelle, alors le peak oil, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, le premier calcul, il date de 1921, donc on peut pas dire que ce soit un truc nouveau.
Okay. Hein,
voilà. Il était remis à jour régulièrement en fonction des découvertes, tout ça, parce que c'est un indicateur lié aux découvertes. Donc, effectivement, le peak oil en 1921 était calculé, puis après on a décalé, jusqu'en fait, il s'est stabilisé dans les années 90 où les scientifiques ont dit, ah, peak oil du conventionnel, c'est autour de 2002 et 2010. Bon, bah, ça a été 2006. Vous voyez, ils sont pas trop trompés. Voilà. Donc, alors que les données étaient connues, donc du coup, et sur la table, parce que les scientifiques les ont pas cachées dans un tiroir, ils les ont publiés, comme pour le dérèglement climatique, hein, en fait, rien n'a été anticipé. Voilà, moi c'est ça qui m'énerve. Aucune transition douce et progressive n'a été pensée ni mise en œuvre pour remplacer le pétrole partout où cela était possible. Parce qu'on peut remplacer le pétrole.
Oui, mais c'est toujours autrement. Cette notion court-termiste.
Mais voilà, mais on peut, mais ça demande de réfléchir, de se poser autour d'une table, de se dire, bah, plutôt que d'avoir une bouteille en plastique, par exemple, quand voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des consignes en verre ? Vous voyez, par exemple, tout bêtement, ça fait tant de kilos de pétrole en, de tonnes de pétrole en moins. Est-ce que dans les peintures, on est obligé de mettre des fixateurs à base de pétrole, ou est-ce qu'on peut revenir à des peintures plus naturelles, comme on dirait entre guillemets ? Encore, la peinture n'est jamais naturelle, mais à des peintures qui ne contiennent pas de fixateurs issus du pétrole, par exemple. Vous voyez, c'est des trucs et ainsi de suite. On prend point par point. Pour le médicament, est-ce qu'on pourrait sécuriser en utilisant des sources qui ne soient pas pétrolifères, par exemple? Ouais. Mais tout ça, en fait, non, personne.
Non, mais de toute façon, parce que ça demande du long terme et de l'investissement. Et qui dit investissement dit moins de dividendes aux actionnaires. Merde,
ça,
toi, tu veux briser les poches des actionnaires.
Et je te rejoins parce que c'est pire, on a réellement fait comme si de rien n'était. Et en particulier en France, on a fait comme si non, tout va bien. Et donc, faut quand même rappeler, hein, comme tu le fais là, que le mastodonte Total, hein, quand même, qui est la deuxième entreprise pétrolifère du monde, en fait, est un petit peu française et que donc elle a sûrement veillé au grain pour faire une bonne petite pression là où il fallait pour que rien ne change, car quand rien ne change, Total peut donner des dividendes.
Tant qu'un change, c'est bon pour ceux qui possèdent. Quoi.
Voilà. Car, comme je le disais, hein, tout à l'heure, au-delà de l'essence, le pétrole est central, hein, dans bien des domaines, et si on ne pense pas autrement les choses, si on ne met pas les moyens dans la recherche, par exemple, parce qu'il va falloir faire de la recherche, voilà, nous allons vers de sacrées déconvenues. Comme par exemple, imaginez de remplacer le plastique de partout. Imaginons ça. Comment on pourrait remplacer le plastique de partout? En fait, si on se pose pas la question, pour nous, on se dit, c'est pas possible. En fait, je suis sûr que si on se pose la question, il y en a des gens qui ont des scientifiques, tout ça, ou des inventeurs, ou des gens qui ont des bonnes idées, qui vont dire, si, parce que regarde, on peut utiliser ça, ça et ça. Vous voyez, on pourrait trouver des solutions. Mais il faut avoir envie de les trouver déjà. Comment faire, alors que nous n'avons pas encore développé de filière de recyclage vraiment efficiente, ni de recherche pour faire réellement et facilement autrement? Comment on va faire, en fait, en réalité? Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, le pétrole, majoritairement, on le brûle. Soit dans les moteurs de bagnole, soit dans les poubelles. Donc, en fait, c'est un réel problème, en fait, concrètement. Ou alors, il va se balader en mer dans les sacs plastiques, tout ça. Pareil pour la fabrication chimique, en général. Si demain, on ne pouvait plus faire de médicaments, parce qu'on n'a pas envisagé un pétrole plus cher, donc du coup, qui ferait que les médicaments deviennent invendables. Parce que qui dit matière première très chère, dit matière finale encore plus chère. Donc, à un moment donné, il va bien falloir se poser des questions de ce côté-là aussi. Et imaginons qu'on manque carrément de médicaments. C'est emmerdant quand même.
Oui.
Voilà, une fois de plus, hein, je sais, c'est un sujet sur lequel nous devons nous pencher collectivement, hein, pour ne pas le laisser que dans les mains d'un État. et de politique professionnelle. Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Nous devons nous poser des questions et poser nos besoins collectifs. Parce qu'il faut se poser des questions collectives. Car si la solution, c'est de réserver la capacité de bouger, de se soigner et autres aux seuls plus riches, ça, je sais que le capitalisme, il sait parfaitement faire.
Oui, ça, y a pas
voilà, de... je suis pas inquiet. Là, pour les plus riches, je suis pas inquiet. Mais je sais aussi que c'est à des années-lumière de ce que moi, je souhaite pour l'humanité, de ce qu'on est, j'espère, plusieurs à souhaiter pour l'humanité, et je pense pas être le seul dans ce cas-là à imaginer qu'on peut espérer autre chose que ça. Voilà. Les moyens de faire autrement existent dans bien des domaines, à nous d'imposer un virage qui certes ne se fera pas plaisir à Total, on en est bien conscient, mais qui pourrait à terme aider à mieux vivre et plus longtemps sur une planète plus vivable. Mmh. Alors, chiche, on y va.
Voilà. Ouais, chiche, mais effectivement ça mérite de se poser, de mais là encore une fois,
je
ça rejoint aussi,
ouais.
Mais c'est ça en fait, c'est que là ça rejoint aussi d'autres sujets qu'on a pu faire, c'est la problématique de pas mal de mouvements politiques qui n'ont pas le pouvoir, c'est de se positionner contre le pouvoir en fait, alors que en fait ce qu'il faudrait, c'est pas, enfin si, c'est évidemment lutter contre le pouvoir actuel, mais c'est lutter déjà contre tous les pouvoirs, et c'est surtout penser en fait la société contre.
Mais oui, c'est ça.
Et en fait, on est tellement contre que en fait, on pense plus à pourquoi on est en fait. Et sans tomber après dans le simplisme, parce que je veux dire,
non,
la crise
clair.
Covid qu'on a pu traverser a quand même ramené beaucoup de gens à une sélection naturelle et la loi du plus fort.
C'est pas mon idée.
Non, mais je sais absolument que c'est pas la tienne. Mais c'est juste que là aussi, en fait, se poser sur des pour. Ce qu'on veut pour dessiner des choses, bah ça va nous mettre dans des confrontations en fait quoi.
Oui.
Et ça aussi il va falloir l'accepter et ça va pas forcément nous rendre notre camp pseudo-révolutionnaire ou révolutionnaire ou l'appeler comme vous voulez, plus fort quoi, parce que
non mais ça
ce que j'ai pu voir ou lire dans certaines bouches d'anarchistes ou autres révolutionnaires pendant une crise Covid, ça fait bien gerber.
Ah mais moi je pense donc, à la il vaut mieux comment dire, espérer de l'intelligence collective. Oui. Que de l'intelligence militante. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je le pense. C'est-à-dire que le militantisme, et je suis militant, est très important parce que c'est ce qu'on appelle avoir une formation, un pilier, voilà. Ouais. Sauf que je crois beaucoup plus à l'intelligence collective, c'est-à-dire quand les gens se parlent et réfléchissent à un sujet ensemble, et que à dire on a la solution suprême parce qu'on a réfléchi à quatre dans un bureau et qu'on est les meilleurs du monde, ça, ouais. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc en fait, en réalité, voilà, je suis assez, mais je le redis, hein, je reste assez optimiste parce que je pense que l'humanité est capable de nous surprendre dans le bon sens. Donc du coup, elle l'a prouvé hein, des fois.
Ah,
et,
oui.
Et moi, je voulais juste, je fais une parenthèse parce que je la fais vite fait. Je vous invite vraiment à voir les images de ce qui s'est passé dans l'Hérault après l'inondation qu'il y a eu.
Ah, oui.
Et en fait, moi, je me souviens
aujourd'hui.
De... Ouais, aujourd'hui. Ah, hier, aujourd'hui. Moi, je me souviens, il y a plein de gens qui m'expliquaient que tout le monde était égoïste, que personne n'aidait ses voisins, que tout le monde se détestait, machin et tout. Puis là, j'ai vu en fait des gens qui spontanément, en fait, sont allés déblayer la maison du gars qui était à côté parce que il y avait des gravats devant et puis qu'il fallait bien sortir. Qui aidait le petit commerçant du coin à nettoyer son commerce parce que il va pas le faire tout seul, elle était toute seule, donc on est venu. Voilà. En fait, ça s'appelle de l'entraide. Et comme quoi, des fois, on est agréablement surpris.
L'entraide.
Ouais.
Tiens. on passe à la ZIC, ça vous va?
Allez.
Allons-y.
Il est tout, ouais.
Toujours fait les bons choix de travers, je suis parti. Pour moi la vie n'est qu'un jeu, une grande surprise partie. Je roule en contresens, en sens inverse. Je m'arrêterai pour prendre un verre avec toi. Si ma poids dans ta tête y averse. Ouais, je suis dans le thème, je suis dans le plan de vous faire du bien avant qu'on canne. La vie est courte, 21 grammes. Le bonheur ne coûte pas un bras. On s'attrape, on se retrouve, douleur, parole, douce paradrap. Prends-moi ici ou là-bas, ses mains dans la main qu'on paradra. Et si le paradis se trouve sous pied de nos mères, à nous de faire l'effort de rester fort, les rendre fiers. Il nous reste un peu de temps pour allumer la lumière, ramener un peu de joie, de gaieté au fond des chaumières. Et même si triste est l'époque, tous ensemble on fait bloc. Peu importe l'endroit d'où tu viens, je t'ouvre ma porte. La vie est courte, on craque, il faut qu'on la croque. À plein temps, écoutez son cœur, crois-moi ça débloque. Et même si triste est l'époque, tous ensemble on fait bloc. Peu importe l'endroit d'où tu viens, je t'ouvre ma porte. Et même si triste et fort. je viens, où j'ai grandi, où j'ai grandi, yo. Ma différence fièrement je la brandis, je la brandis, yo. Tous ces sourires m'ont rendu fort et m'ont rempli, et m'ont rempli. Cœur connecté, vos autres n'a pas de prix, ouais. Faut que je me démène, il faut pas que je me loupe. Brebis entouré par des yannes et des loups. Quand j'ai le dos tourné, se délie les langues. La pente est rude mais j'ai pris de l'élan. L'ami, je suis dans une position, je ne me ferai pas avoir. Être heureux ne tient à rien mais encore faut-il le savoir. Et si le paradis se trouve sous pied de nos mères, à nous de faire l'effort, de rester fort, les rendre fiers. Il nous reste un peu de temps pour allumer la lumière, ramener un peu de joie, de gaieté au fond des chaumières. Et même si triste est l'époque, tous ensemble on fait bloc. Peu importe l'endroit d'où tu viens, je t'ouvre ma porte. La vie est pour ton craque, il faut qu'on la croque. À plein temps, écoutez son cœur, crois-moi ça débloque. Et même si triste est l'époque, tous ensemble on fait bloc. Peu importe l'endroit d'où tu viens, je t'ouvre ma porte. La vie est pour ton craque, il faut qu'on la croque. À plein temps, écoutez son cœur, crois-moi ça débloque. Et même si triste est l'époque. D'où tu viens, je t'ouvre ma porte. Et même si triste est l'époque, il faut qu'on la croque. À pleines dents, écouter son cœur, crois-moi, ça débloque. Et même si triste est l'époque, 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 et même si triste est l'époque.
Hey, hey, vous êtes de retour dans la causerie au 102 sur radioquenu.org et on vient de s'écouter Sylvane Aregue avec Triste est l'époque, parce que même si triste est l'époque, il faut qu'on la croque et tous ensemble on fait bloc. Je trouvais que c'était pas mal comme façon de poser les choses, j'aime bien l'idée.
Effectivement. Voilà.
Et puis je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Sylvane Aregue. Alors Sylvane s'écrit S-I-L-V-A accent N et Aregue A-R-E-G. Vous aurez deviné qu'il est un peu à l'ouest. Et donc du coup, voilà. Et il fait du rap très très sympa.
Voilà. Ok. Donc, très bien.
Et toi, Jean-Yves, tu avais envie de revenir sur un petit concept. La désobéissance civile.
Oui, effectivement. Mais pour venir à cela, j'en suis parti de... Enfin, pour
arriver à ça.
Ouais, c'est compliqué, pardon.
Pour en arriver.
Je vais revenir effectivement sur les propos en fait qu'a tenu Dupont Moretti, ministre de la Justice, le 7 septembre devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences commises lors des manifestations du printemps dernier à Sainte-Soline. Alors il a déclaré, hein, je vais vous faire un petit topo de tout ce qu'il a dit, parce que c'est toujours intéressant d'écouter ces hommes politiques. Alors, on a le droit, disent certains, quand on est porteur d'une cause légitime, de ne plus obéir à la loi. C'est infernal, a-t-il estimé. Rien n'est plus liberticide. Il continue, hein, j'en ai ras-le-bol de cette petite musique de la désobéissance civile. On sait d'où ça vient, c'est revendiqué. Pointant du doigt l'extrême gauche, après que l'extrême droite lui ait demandé « Mais de qui vous parlez ?» C'est magnifique, c'est vraiment...
Ce duo comique.
C'est magnifique, quoi. Il continue, hein, ces derniers mois, les rassemblements, les manifestations sur la voie publique ont été le théâtre d'actes portant gravement atteinte à l'ordre public, trop souvent contre les forces de l'ordre. Aucune, mais alors aucune, ne pourrait justifier ces déchaînements de violence et encore moins contre les symboles de la République. La liberté, c'est l'obéissance à la loi commune, a-t-il rappelé, hein, en citant Jean-Jacques Rousseau. Quand on n'est pas content de l'inaction gouvernementale en matière d'écologie, on peut aller fracasser des œuvres d'art ? Je vous le demande, hein. Ah pardon, ça c'est moi qui le rajoute, mais c'était pour mettre un peu de théâtralité, hein. Je vis mon personnage.
C'est pas trop dur d'être dans Dupont-Moretti, j'aurais du mal.
C'est du théâtre, c'est de l'art là que je te fais, enfin que je vous fais. Concernant Sainte-Soline, hein, le ministre a évoqué, attention, je cite encore, hein, des hordes de types qui ne respectent rien. Déjà, c'est penser que derrière certaines tenues, il n'y aurait que des types. C'est rigolo quand même.
Oui, puis c'est surtout le terme horde, qui est quand même un truc...
Oui, c'est des hordes sauvages qui attaquent.
C'est horrible.
Ça,
enfin, ouais.
Qui ont traversé l'Europe pour aller manifester.
À cheval, c'était comme les hordes mongoles, c'est pareil. Ouais, c'est des débiles comme image.
Et il est très choqué par ça, hein, a-t-il insisté, avant d'évoquer aussi le récent incendie du tribunal d'Aurillac par des manifestants et manifestantes. Il termine... Enfin, je vais terminer, parce que ça a duré 1h40. Hein, donc,
tu ne fais pas les 1h40.
Je vais pas vous faire les 1h40, mais encore une fois, il faut écouter aussi pour... voilà. Je suis de ceux qui pensent que la richesse d'un pays se mesure aussi à la diversité et la force des convictions de ses citoyens. Défendre ses idées et ses opinions a toujours été pour moi le signe d'un engagement citoyen qui ne peut et ne doit s'inscrire que dans le respect absolu de la loi.
On est mal barré, okay. Alors.
Ah. Alors, outre la confusion, ou du moins le mélange de plein de choses très différentes, j'ai trouvé, hein, on peut aussi constater l'exagération de ses propos.
Apon aurait-il exagéré ?
À peine.
C'est pas son genre.
Non. Alors, on passe hein, du mouvement de lutte contre les casses de retraite, où il y a eu des locaux d'entreprise, tels qu'assurance, boîte intérim, etc., qui ont été cassés, effectivement, hein, chose dont on avait parlé dans la causerie. Et quant aux violences contre les flics, bah, logique en fait, hein, que ce personnage attende simplement que tout le monde baisse la tête et accepte les provocations policières et leurs violences gratuites. Doit-on rappeler ici, on l'a déjà eu fait, mais on va le refaire, doit-on rappeler ici le nombre de blessés du côté des manifestants et manifestantes, le nombre de gueules amochées au flashball, doit-on vraiment le faire? Parce que je pense que la comptabilité sera pas très bonne. Et leur peuple adoré, hein, que je déteste moi cette notion, est donc censé dire merci? C'est juste pour savoir en fait comment c'est censé se passer, parce que de ce que je comprends, il y a une manière de faire, quoi, hein, et c'est celle de l'autorité étatique. Alors concernant le fracassage d'œuvres d'art, de quoi il parle en fait?
Parce que je rappelle qu'il n'y en a pas eu.
Ah ben, justement, est-ce qu'il parle en fait de la peinture et des mains collées sur des œuvres d'art
protégées?
N'oublie-t-il pas justement de dire que les œuvres étaient protégées par du verre?
Et sélectionnées comme telles, parce que protégées. C'était l'idée quand même.
Une omission peut-être. Alors, c'est pas du complot, hein, c'est juste de la sémantique et du discours politique. Hein. Une omission pour continuer de nourrir la grande peur de l'extrême gauche, qui serait donc LFI certainement, il faut croire,
ouais, mais
que ce personnage et ses semblables veulent diffuser finalement et entretenir. Hein. C'est toujours cette notion de... Il y a quand même un petit côté à l'ennemi intérieur, quoi, je trouve. Hein.
Ah bah clairement, et je suis même pas sûr, alors là je le dis très simplement, que les gens qui ont fait les actions contre les œuvres d'art se réclament de l'extrême gauche. Elle-même, je sais pas.
Bah oui, et puis en plus, je crois que ça s'est passé dans tout plein de pays.
Ouais, c'était une action européenne.
Alors, à moins que la LFI, donc grande représentante de l'extrême gauche, quand même, c'est assez fou, quoi. Alors que bon, bah,
déjà,
c'est
Mélenchon,
juste la suite de.
Mélenchon à l'extrême gauche, faut déjà y aller.
C'est ça, quoi.
Mais.
À moins que donc LFI ait la main sur tous les militants et militantes du monde. Enfin, il y a un complot, quoi. Tu vois, il y a vraiment un truc.
Moi, j'ai vu Greta Thunberg. Je crois que derrière elle, il y avait Mélenchon.
Ouais, c'est ça.
Je dis ça comme ça. Non, mais c'est quand même n'importe quoi.
Ouais, quand même. Je pense aussi. À l'inverse, moi je pense en fait que si peur nous devions avoir, peut-être que c'est d'un climat changeant, hein, des conséquences aussi justement de ces changements, peut-être aussi hein, de la violence des politiques mises en place, que ce soit face justement au changement climatique ou encore face au chômage, à la précarité, ou aussi contre les populations qui cherchent juste de meilleurs jours sous nos latitudes, etc., etc. Mais non, tremblons, braves gens, des œuvres protégées ont été saccagés. Enfin, c'est ridicule, c'est un peu la France à peur. Hein.
Mais de toute façon, ce gouvernement joue énormément
sur
ces sémantiques-là et sur. On en avait parlé avec la Baïa, on en parle là avec Dupond-Moretti et ses sorties. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, même les conservateurs de musées, j'ai vu, il y a plusieurs conservateurs de musées où il y avait eu des œuvres recouvertes de. En fait, pas de peinture, généralement c'était de la soupe. Parce que justement, c'était pour éviter que ça abîme en plus trop. Enfin, il y avait toute une logique derrière, c'était même pas des actes.
C'était pensé.
C'était pensé pour être un acte choquant. Entre guillemets, au sens ça fait parler, mais pas un acte de dégradation. Ces gens, ils aiment l'art comme tout le monde.
C'est la notion d'interpeller les gens. En fait.
Mais oui, c'est ça. Et en fait, même les conservateurs de ces musées ou conservatrices disaient non, mais en fait, ça va. Enfin, genre, rien de grave, quoi. Genre, bon, bah, c'est pas grave. Alors que je rappelle quand même, par contre, qu'il y a des œuvres d'art qui ont été, elles, détruites par des militants d'extrême droite, avec de la peinture jetée directement. Oui. Notamment une œuvre d'une artiste qui avait été jugée pédocriminelle par une députée du Rassemblement National, et qu'un homme était allé recouvrir de trucs, alors que l'œuvre n'avait rien de pédocriminel du tout. Il y a aussi eu des œuvres d'art qui ont été détruites par l'extrême droite. Je pense à Christie Peace Chris, qui était une œuvre qui a été massacrée au marteau parce qu'ils estimaient qu'elle n'avait pas le droit d'exister.
On peut aussi rappeler un attentat à la bombe dans un cinéma.
Ouais, à Saint-Michel pour la dernière tentation du Christ. Donc je veux dire, si des gens ont réellement des panels de destruction d'œuvres d'art, comme le dit Dupond-Moretti, bah, qu'ils regardent du côté de ceux qui l'interrogent.
C'est ce que je veux dire. Merci, mais
ça me fout hors de moi qu'on retourne encore une fois le truc dans l'autre sens, alors que très franchement, s'il y a bien des gens qui devraient se regarder en face en termes de destruction de ce qu'est l'art ou de maltraitance de ce qu'est l'art, c'est bien l'extrême droite et la droite en France.
C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Et alors, pardon, je continue. Concernant Sainte-Soline, bon, on en avait déjà parlé, hein, la police, donc, protégeant un trou de terre, hein, on le rappelle.
C'est vrai.
Parce que ce n'est que ça.
C'est horrible de se dire qu'il y a eu autant de blessés et tout pour un trou dans le sol.
Pour un trou dans le sol, hein. Des flics shootant au flashball, hein, depuis des quads en mouvement. Ah tiens, ça c'est interdit, mais ça c'est pas grave.
C'est pas de la désobéissance, non. Ça c'est une erreur.
Ça c'est, oui, c'est ça, c'est une erreur. Okay. Ou alors, ils n'avaient pas le choix, quoi. Un mouvement, hein, donc, qui n'avait aussi au départ, je ne pense pas l'idée d'aller se farcir du keuf. Même si peut-être que certains s'y étaient préparés, parce que connaissant, si on est un peu lucide sur l'État et sa manière de se protéger, oui, on sait très bien qu'il lâche ses chiens très rapidement, en fait.
Ben
hein.
Oui.
Mais bon, la politique effectivement du pouvoir, hein, a été celle d'aller à la confrontation, parce que l'État est encore une fois le seul, hein, ayant le droit d'être violent. Lui, il a à peu près tous les droits.
C'est ça.
Hein, c'est-à-dire un flic qui assassine un jeune qui est censé se faire arrêter. Ça va, en fait. Hein. C'est marrant quand même le nombre de gens qui sont blanchis en fait en France dès qu'ils sont du côté du pouvoir et donc de l'État. Marrant. Quant au tribunal d'Aurillac, bon, bah, du mobilier à brûler. Dramatique, hein, n'est-ce pas? On rappellera les gueules, les borniers par des flashballs. On rappellera les morts sous les coups des flics. Mais bon, faut croire que du mobilier qui brûle est beaucoup plus grave. Le plus révoltant, justement, n'est-il pas en fait qu'une femme a été convoquée et arrêtée, en fait, hein, et convoquée donc au tribunal.
Je vais rectifier, arrêtée violemment et convoquée au tribunal.
Pour avoir été torse nu en ville, comme tant de mecs, en fait, le même jour. Alors, les mecs se sont pas fait arrêter, mais tant de mecs, torse nu, en fait. Et ouais, en fait, sauf qu'une femme faisant cela, bah, ce serait de l'exhibition sexuelle. C'est marrant, hein, la sexualisation des corps des femmes tout de suite. Alors qu'en fait, des seins, c'est juste des seins. C'est pas grave, hein. C'est, attention.
Ça va, messieurs, vous allez vous
oui,
en sortir.
Oui, ça va, calmez-vous. Calmez-vous, messieurs.
Est-ce que je vous saute dessus quand vous êtes en méo? Non?
C'est vrai.
Alors, retenez-vous.
Mais oui,
aussi.
En fait, sachez-vous tenir, en fait.
Vous êtes sérieux.
Corne de porc. En fait, selon ce personnage, hein, et ses acolytes, nous devrions donc toujours nous taire, hein, parce que c'est le principe.
Évidemment.
Accepter les arrestations, les jugements, bref, nous devrions leur faire confiance, toujours, parce qu'ils sont la raison même.
Et la loi.
Et la loi. je vous passe, enfin non, je vous la passe pas, mais enfin, je vais en parler. De la sortie dégueulasse, hein, du libidineux Moretti, lorsqu'il s'est déplacé à Aurillac, hein, justement, suite à l'incendie. Après le point presse, qu'a-t-il trouvé de plus drôle à dire? Attention, hein, là, notez tout parce que c'est waouh. Je le cite. Je constate que parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus. Hein? Il faisait pas assez chaud? Voilà.
Mais qu'il est drôle.
Ouais, c'est ça. Coupe-coupe, hein, j'ai envie de proposer, moi, qu'on lui coupe la bite et peut-être qu'il se sentira moins lourd et peut-être qu'il le sera moins aussi pour les autres. Bref, pardon, la Société des journalistes, hein, donc la SDJ de plusieurs médias, donc BFM TV et TF1, ont condamné les déclarations inappropriées et sexistes d'Éric Dupond-Moretti. Alors je vous passe l'excuse et les justifications du ministère de l'Intérieur et de tout ça, parce que c'est juste, on l'aurait pas compris, quoi.
Bah ouais.
Ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, quoi que ce soit, justifie donc de dire « il y en avait aucune qui était sainte devant moi, quoi ». Oh là là, et ces gens-là ont du pouvoir, en fait. Non, mais c'est ça qui est fou, quoi.
Ah, c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant.
Ouais, c'est... non, mais c'est ça, quoi. C'est des abrutis à ce niveau-là. Enfin, bref. Bref. Hein, je m'arrête de m'énerver. Et je voulais quand même revenir, en fait, quand même, sur ce qu'est la désobéissance civile. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut se le rappeler. Donc, la désobéissance civile, hein, alors là, je cite une
définition que j'ai trouvée sur les internets. Donc la désobéissance civile est une forme de résistance qui consiste à refuser d'obéir aux lois et aux jugements d'ordre civil. Elle a pour objectif d'attirer l'attention de l'opinion publique sur le caractère inique ou injuste d'une loi avec l'espoir d'obtenir son abrogation ou son amendement. Ceux qui pratiquent la désobéissance civile sont prêts à encourir les peines, dont l'emprisonnement, qui pourraient leur être infligées pour avoir enfreint la loi. Petit rappel un petit peu historique, en fait, les principes de mode d'action ont été exposés pour la première fois par un certain Henry David Thoreau, écrivain américain qui est mort en 1862, dans son essai « La désobéissance civile ». Qui date de 1849. Et en fait, ça faisait suite à son refus de payer un impôt pour exprimer son opposition à l'esclavage, ainsi que contre le financement en fait de la guerre contre le Mexique. Donc voilà, il a été emprisonné pour ça. Hein.
Oui, mais c'était historiquement, la désobéissance civile, c'est même pas des gens, contrairement à ce que croit Monsieur Dupond-Moretti, c'est même pas des gens qui veulent la fin de l'État, par exemple. Non. Souvent, c'est des gens qui veulent l'amélioration de ce que fait l'État.
C'est ça, c'est voilà. Exactement ça.
Non, mais je le rappelle, si, t'as raison. Parce que la désobéissance civile ne s'inscrit pas en réalité comme un acte révolutionnaire. C'est-à-dire, même ça peut en faire partie. Mon propos n'est pas de dire que toute désobéissance civile n'est pas révolutionnaire, c'est pas mon propos. Oui. Mais il y a beaucoup d'actes de désobéissance civile qui ne s'inscrivent pas dans une démarche, disons, révolutionnaire d'abattre l'État ou de prendre. Voilà. Non, c'est des demandes de transformation de ce que l'État a mis en place. Voilà.
C'est ça, c'est exactement ça. Faudra donc rappeler au sinistre Moretti, pour celles et ceux qui auraient ses contacts, que
06 22, non, je déconne.
Que tout cela n'est pas né en fait avec l'extrême gauche actuelle.
Ah, pas du tout. Hein,
scoop, quoi. Et que beaucoup en fait n'attendent aucun ordre en fait de cette soi-disant extrême gauche pour dégueuler des lois, pour dénoncer et lutter contre des lois et des positions politiques que peuvent avoir ceux qui ont le pouvoir, alors que ça soit en France, mais c'est transposable absolument dans tous les pays, vu que Henri Thoreau, c'était aux États-Unis par exemple. Et pour rappel aussi, pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément la mémoire à long terme, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être donner quelques exemples de désobéissance civile dans notre histoire humaine. On a donc vu contre l'esclavage, contre la guerre, mais aussi contre la ségrégation aux États-Unis, pour les droits des femmes, pour les droits des LGBTI, contre les expulsions, pour les droits de celles et ceux qui fuient leur pays, etc., etc., etc. La liste est très, 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 très longue.
En réalité, tout ce qui a amené à une amélioration des conditions des êtres humains en tant qu'être humain, c'est-à-dire par rapport à leur individualité, est relié à un moment ou à un autre à de la désobéissance civile.
C'est ça.
Donc ce que Dupond-Moretti est en train de nous expliquer, c'est qu'on serait à la fin de l'histoire, et que donc tout irait bien, et qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui de faire de la désobéissance civile. Les seuls qui sont capables de dire ça sont rarement des gens équilibrés, c'est plutôt des gens qui rêvent d'un État totalitaire.
C'est ça.
Pardon de le dire comme moi, un État où rien n'est à améliorer, où tout va toujours tout très bien, je connais que l'État totalitaire qui affirme ça.
Ah, mais
l'État ne se trompe pas.
Je vous ai évité l'extrait où il dit allez voir dans d'autres pays, c'est pire.
Donc c'est débile.
Ah ouais, ok, d'accord.
Parce que c'est pire ailleurs, donc on doit.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Le relativisme à deux balles, quoi. Bref. Je vais quand même pas tarder à m'arrêter. Un temps de lutte, effectivement, ayant pour objectif la liberté, l'égalité, l'équité entre les êtres humains, à travers le globe. Ça aussi, c'est pas un truc de blanc, c'est pas un truc d'européen. C'est à travers le monde, en fait. Le refus, en fait, de la soumission à des lois dégueulasses, à des choix politiques égoïstes, parce que finalement, ce que peuvent aujourd'hui dénoncer des mouvements, on va dire, de désobéissance autour de l'écologie, en fait, c'est ça, c'est des politiques égoïstes. C'est-à-dire que c'est tout pour les poches des actionnaires de Total, rien pour le bien collectif et pour le bien commun, en fait. Ne serait-ce que même un air plus respirable, en fait. Et encore, on n'est pas dans les pires des cas.
Et c'est même pour certains une notion de tout pour les pays riches, rien pour les pauvres.
Ça aussi, tu fais bien de le dire.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même derrière, je trouve aujourd'hui, ces mouvements, un renouveau de l'intelligence collective politique qui est très intéressant. Oui. C'est-à-dire que, et je comprends que Dupond-Moretti en ait peur. C'est-à-dire qu'en fait, lui qui fait partie de la Macronie, il est la trouille, c'est normal.
Bah oui. Et donc justement, il y a plein de luttes qui avaient donc ces objectifs, ont eu effectivement, comme tu disais, comme moyen de résistance et de lutte, bah, ils ont eu recours à la désobéissance civile, en fait.
Oui.
Ça veut pas dire que c'est constant ou que c'est sur toute la durée d'une lutte, mais il y a un moment donné, oui, tu montres une affiche de Martin Luther King. Moi, je pensais à Claudette Colvin, à Rosa Parks.
Bien sûr.
C'était de la désobéissance civile, et tout ce qui s'est mis en place derrière, c'était de la désobéissance civile. Donc, bref, en fait, et je voulais quand même rajouter aussi que celle-ci, alors, pour les plus puristes, ils ne seront pas d'accord avec moi, mais qu'en fait, la désobéissance civile ne s'est pas toujours faite par la non-violence. Moi, je pense que... mais on en parlait quand on préparait le sujet. D'une certaine manière, les gens qui pouvaient être en résistance... Allez, en France, par exemple, après qu'un pouvoir ait collaboré avec un système nazi,
Il désobéissait
parce que finalement les lois de la République étaient celles du nazisme ou
du maréchal Pétain.
Donc c'était encore la République. Donc finalement ils étaient dans la désobéissance civile. Faudrait peut-être dénoncer les résistants de 45.
Même sans ça, moi j'ai l'image, je me rappelle plus quelle époque c'était, mais il y avait des suffragettes qui avaient demandé à se réunir dans un lieu et le lieu a dit non, nous les femmes on en a rien à foutre en gros, et en fait elles ont cramé le lieu. Voilà. Et moi, en fait, paradoxalement, même si ça paraît comme ça violent, en fait, elles avaient fait attention qu'il n'y ait personne dedans.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce que du coup, parce que c'est ça que ça renvoie, c'est que on peut se dire c'est pas bien de brûler un lieu, ok. Mais est-ce que c'est pas terrible de mépriser les femmes ?
Est-ce que
finalement, quand les femmes prennent le contre-pied et finalement crament la baraque en disant bah écoute mon gars, si t'es pas content, c'est comme ça. Ben moi, je suis désolé, mais ça peut paraître violent. Sauf qu'à un moment donné, si ces actes-là n'existent pas dans l'histoire, eh ben on avance.
Il n'y a rien.
Et donc, en fait, je suis désolé, mais à un moment donné.
C'est nier l'histoire humaine, en fait.
C'est comme le tribunal qui a pris feu, là, suite à l'affaire d'une femme arrêtée, encore une fois, je le dis violemment, et à qui on menace de prison pour s'être mis torse nu dans une ville.
Oui, c'est-à-dire, elle se promenait juste torse nu. Je veux dire, il n'y a pas d'acte sexuel. C'est vraiment.
Et ben, je suis désolé, je ne sais pas qui a fait cet acte-là, mais je trouve qu'en termes de réponse, ça va sûrement choquer ce que je vais dire, parce qu'il y a des gens qui disent, c'est inadmissible. Et ben, pardon. Mais il y a des moments, faut aussi remettre l'institution à sa place.
Oui.
Et c'est une façon de lui dire, si t'es pas content, je crame le truc. Alors, ça paraît comme ça un peu excessif, sauf que moi, je trouve que ce qui est plus excessif, c'est le silence des pantoufles.
Oui.
C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, des choses arrivent et qu'une majorité de personnes ferment leur gueule.
C'est ça
le problème. Et moi, qui ai des gens qui ont envie de désobéir et de nous montrer parfois, et parfois c'est irritant, je vais pas dire le contraire. Des fois, ça nous irrite un peu, on se dit, quand même, machin et tout. Ouais, mais ça fait du bien politiquement de se dire quand même qu'il y a des gens qui ont envie de secouer un petit peu en disant vous vous réveillez un peu.
Oui, c'est ça. C'est que des gens rêvent d'autre chose.
C'est plutôt positif, quoi.
Alors, bref, Moretti se positionne du côté des puissants, des possédants, qui ont toujours été ceux qui ont le plus à perdre, en fait, finalement, dans les changements sociétaux venus par la désobéissance civile. Que ça lui plaise pas. En fait, c'est plutôt rassurant. Donc, vive la désobéissance civile. C'est juste. Je trouvais ça absolument hallucinant. Et puis cette connivence. Et puis là aussi, c'est toute cette défense pour finalement non plus ne pas remettre en question, comme je le disais au début, tous les méfaits en fait des gens habillés en bleu qu'on appelle police, gendarmes, tout ce que vous voulez. Ça, en fait, on n'en parle jamais. En fait, c'est toujours juste. C'est quand même fou d'être à ce point. Aussi sourd et aveugle aux propos, aux vidéos, à tout ce qui peut sortir, quoi. C'est quand même, on a l'impression d'être, en fait, c'est presque orwellien, en fait, quoi. Il y a un truc où tout va mal, mais pour eux, ils diront, mais non, tout va bien parce que ça pourrait être pire. Mais en fait, c'est quoi? On attend quoi, en fait? Que les gens se fassent descendre par des keufs tout le temps et on se dirait, peut-être que là, il y a un peu des agissements qui sont excessifs de la part de la police. Mais en fait, je m'énerve tout seul, mais ça m'agace, quoi.
T'as raison.
Et qu'en même temps, je voulais aussi rappeler, parce que quand j'ai préparé, j'ai pensé à ce sujet, je me dis merde. D'un autre côté, je voudrais pas non plus que ça serve d'épouvantail, finalement, à Dupond-Moretti, parce qu'on le rappelle, ce cher ministre de la Justice est incriminé dans des affaires judiciaires qui devraient bientôt, normalement, être devant la justice, parce que il a vraiment trempé dans des trucs dégueulasses. Enfin, il a menacé des...
Il aurait trempé.
Il aurait, évidemment, le conditionnel et de rigueur. Mais c'est juste, là aussi, tu dis merde. Est-ce que j'en parle parce qu'en fait quand même ses propos sont absolument dégueulasses, et je veux dire il rappelle aussi que il va falloir sanctionner beaucoup plus fermement les gens, il va falloir interdire aux gens par exemple de l'étranger de venir. Mais je veux dire c'est le même qui va sûrement sucer je deviens vulgaire parce qu'en plus sucer c'est plaisant, qui va aller faire de la lèche à des monarques absolument sanguinaires, à des dirigeants politiques absolument dégueulasses, et en fait ils viennent nous donner des leçons. Mais en fait, à un moment donné, j'espère vraiment que les humains, faites-nous confiance, faites-vous confiance, faisons-nous confiance. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus sympa pour la majorité des gens que ces roitelets là, que cette petite bourgeoisie qui finalement est toujours minoritaire, mais vu qu'ils ont les moyens, ils se croient forts, mais ils sont rien en fait. Forts parce que certaines d'entre nous leur donnent du pouvoir, mais en fait, arrêtez de leur donner, prenons-le nous ensemble. Pour justement pas aller dans des attitudes autoritaires, mais en fait passons-nous de ces politicards quoi. Ils jouent rien pour le collectif. C'est leur gueule, leurs copains, leur classe, et le reste ils s'en tapent. Voilà, pardon, je suis très énervé ce soir. C'est la chaleur.
Non mais alors pour une fois que t'étais positif, je vais rien ajouter.
Fais au palais quoi. Donc on passe à la musique. Ouais.
Oui.
Ou tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Alors attention, platine. On y va.
J'arrive et au platine.
Ouais. Je suis au platine, c'est parti.
Pendant 10 ans, l'amour a besoin de changer.
Eh ouais, t'entends ça ou quoi? C'était donc le collectif Astéréotypi avec leur nouveau clip qui est sorti aussi. D'ailleurs, allez le voir, il est absolument magnifique. Et le titre, c'est « Vivre soi deux ». Et ouais, et votre enfant est responsable de rien. L'oubliez pas. Pardon, mais
je vais rappeler qui est Astéréotypi.
Astéréotypi, c'est un collectif musical d'écriture, etc., qui sont aussi un peu en lien avec le Papotin, qui est un superbe journal et superbe émission de télévision, faite de personnes majoritairement, on va dire,
neuroatypiques,
ouais. Autistes, et donc ils sont avec des créatifs, etc., et ils créent tout ça ensemble. Et si vous avez l'occasion d'aller voir ça sur scène, eh ben allez-y, parce que ça dépote.
Ouais, je suis d'accord, écoutez, on les a vus,
c'est absolument, leur clip et leur musique est absolument génial. On vous a déjà passé, je crois que je vous ai déjà passé des titres.
Oui, on a déjà passé Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme, ce qui est un drame terrible, je suis assez d'accord.
Oui, je pense aussi. mais d'ailleurs, je crois qu'il habite dans le Vaucluse, faudrait peut-être qu'on le dise à l'autrice. alors, on va terminer avec des brèves. Alors, oui, c'est moi c'est qui commence ça. Alors, en fait, à l'occasion du 50 ans du MLAC, Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la Contraception, le Planning Familial 69 organise un festival pour évoquer les luttes pour le droit à l'avortement, hier et aujourd'hui, pour connaître notre histoire et pour réfléchir ensemble à ce qui reste à conquérir, défendre en 2023. Et en fait, il y a un festival autour de cette lutte qui aura lieu, en fait, qui a lieu du 15 septembre, ça a déjà commencé, au 15 octobre, donc il y a un mois de différentes choses, donc il y a deux événements en septembre. C'est une exposition sur les luttes pour l'avortement à Lyon, créée à partir des archives du planning familial. C'est à voir du 15 septembre au 8 octobre au Rita Plage. Si je ne me plante pas, le Rita Plage, c'est à Villeurbanne. Et tout ça aussi, c'est en lien avec les premières manifs féministes, les avortements clandestins. Oh, c'était de la désobéissance civile, ça, dites-moi.
Mais attention.
On n'aurait jamais dû le faire. Enfin, bref. Donc, l'ouverture du premier centre d'IVG illégal, enfin, tout ça. Enfin, voilà. Il y a une histoire, là encore, qui pourrait résonner avec plein de choses. Donc, il y a des choses qui se passent. Donc, vraiment, je vous invite plutôt à aller sur Rebellion, par exemple, pour avoir tous les événements qui auront lieu. Mais voilà, il y a déjà cette exposition qui se passe. Et il y a aussi un documentaire. Histoire d'A, D'A majuscule. C'est un documentaire militant tourné en 73 pour défendre la liberté d'avorter. Interdit à sa sortie, il avait donné lieu à de nombreuses projections illégales. Et celui-ci, il est diffusé au cinéma Le Zola à Villeurbanne. Donc voilà pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre, on vous le dira au fur et à mesure que ça approchera. Voilà.
C'est mal de désobéir.
Oui.
Non, je plaisante. Désobéissez. Donc du coup, moi, comme j'avais envie de vous faire chanter, je me suis dit que j'allais vous enlever vos enfants et vous demander une rançon. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est une chorale, rien à voir. Oh là là. Non, en fait, c'est la reprise de la chorale militante tous les lundis soirs à partir de 19h30. Si t'aimes bien chanter et si t'aimes bien chanter des chants militants, comme son nom l'indique, et que tu partages les valeurs de la chorale autogérée des Canulars, eh ben, rends-toi 91 rue Montesquieu à 19h30 tous les lundis soirs pour participer à la chorale. Était poumonné sur des titres qui chantent la désobéissance, la révolution, l'envie d'émancipation, enfin des trucs sympas. Voilà.
À ce qui paraît.
Voilà. Donc, c'est la lutine, je vous l'ai dit.
Ouais, tu l'as dit.
Et je sais plus où c'est la lutine.
19h30, la lutine, c'est 91 rue Montesquieu.
Ouais, c'est ça, 91 rue Montesquieu. Ouais, je crois que je l'ai dit en plus. Voilà.
Et juste, je reviens vite fait sur la news d'avant. C'est la projection du documentaire Histoire d'A, donc au Zola, toujours autour des 50 ans du MLAC. C'est donc jeudi 21 octobre à 20h30 jusqu'à 22h30 au Zola à Villeurbanne. Et ensuite, l'autre info que c'est moi qui devais la donner, c'est donc Magma Matters, deux rendez-vous autour de l'endométriose qui auront lieu, en fait, je pense que c'est la même soirée, mais c'est dans deux lieux différents. C'est mardi 19 septembre à 18h à Pièce Commune et le 23 septembre à 18h à l'Amicale du Futur. L'endométriose, c'est une maladie de moins en moins méconnue, mais qui reste comprise la plupart du temps comme une pathologie gynécologique. Or, les expériences sensibles montrent qu'il s'agit d'atteintes souvent plus complexes pour avoir un impact très varié sur les quotidiens des personnes. Donc l'idée, c'est voilà, de faire connaître aussi la situation, etc. Mais voilà, enfin, intéressez-vous à cela aussi. Donc ça, j'ai dit que ça avait lieu mardi 19 septembre à 18h et le samedi 23 septembre à 23h. À 18h aussi, le 23
septembre. 18h, oui, 23
septembre, 18h. Pardon,
ouais. Et sinon, le samedi 23 septembre, il y a aussi une marche qui est la marche pour un monde sans armes nucléaires, qui est à l'appel de l'Observatoire des armements, le mouvement pour une alternative non violente, le mouvement de la paix, l'ICAN France, Rhône-Alpes sans nucléaire, nos voisins lointains, 3.11, SDN Isère, groupe Grothendieck, arrêt du nucléaire 2607, Drôme et Ardèche, Pax Christi et bien d'autres qui appellent à cette marche et qui vous donnent rendez-vous. Alors là, il va falloir se lever parce que c'est à 9h du matin, à la place des Terreaux à Lyon, pour une grande mobilisation joyeuse. Je ne sais pas pourquoi les antinucléaires se lèvent à 9h, mais voilà. En tout cas, je plaisante, mais en tout cas voilà. Tout simplement, alors je vais quand même arrêter de déconner. Pourquoi en fait à 9h du matin? Et ben parce qu'en fait c'est une marche itinérante qui va donc se déplacer et qui part donc de la place des Terreaux et qui ensuite va se diriger vers Vez et voilà et qui ira ensuite jusqu'à Limonest, jusqu'à la fameuse base de Montverdun, où se trouve le centre de commandement nucléaire de la France, vous ne le saviez peut-être pas, et où se trouve une base enterrée avec 6 km de galerie, dans lequel se trouve un des endroits où le président de la République peut lancer une attaque nucléaire. Voilà, et donc...
C'est super.
Donc voilà pourquoi 9h du matin, parce que je plaisantais au départ, et donc vous n'êtes pas obligé de faire toute la marche, vous pouvez aussi les rejoindre à Vez ou les rejoindre à Limonest, donc voilà, il suffira simplement, donc Limonest, ils espèrent y être à 13h, pour vous dire, voilà, parce que c'est un peu loin hein, quand même à pied de faire pas de terreau ni monnaie, mais voilà, du coup, vous pouvez aller à 13h et sinon vous pouvez partir à 14h de Limonest pour le Mont Verdun. Voilà, vous avez toutes les horaires et le but c'est de reproduire ce qui s'était produit en 72 et 73, c'est-à-dire de pouvoir envahir le centre de commandement de Montverdun, ce qui va être beaucoup plus difficile qu'en 72-73,
je pense aussi,
malheureusement, ce qui était en travaux à l'époque, je précise.
Et ben, okay. Et ben on est largement à la bourre, donc on va se laisser, n'est-ce pas?
Oui, hein, on va y aller.
Donc on va se quitter en musique, évidemment. On va se quitter avec Azu Tiwalin avec le titre Nine in Palm Tree, et je vous invite, alors là c'est la version courte.
Night. Ah, j'ai compris Nine, pardon.
Non, Night in Palm Tree.
Ouais.
Ok. À la palmeraie, quoi. Pardon. Donc là, c'est le titre, on va dire, version courte, qui fait 4 minutes 13. Moi, je vous invite à aller sur les plateformes d'écoute, etc. Il y a le titre en version, on va dire, extended, qui fait 6 minutes 10 et qui est toujours aussi délicieux. Donc, Azu Tiwalin avec Night in Palm Tree. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Mm.
Ouais, tout à fait.
22h, 23h.
Oui.
Avec peut-être Clara, on ne sait pas.
Peut-être, hein. On verra. Et juste, je voulais quand même dire, on a une pensée évidemment pour le Maroc et pour la Libye. Vous savez qu'il y a plein d'assos qui ont besoin d'un coup de main, donc n'hésitez pas. Voilà, j'avais oublié de le dire dans les brèves, je le dis maintenant.
Effectivement, et on se souvient aussi qu'il y a un peu plus d'un an,
En Iran,
se faisait tuer une femme pour un foulard mal porté, et que la révolte continue sous des angles différents, sous des formes différentes peut-être. Mais elle continue la résistance au régime sanguinaire des théocrates iraniens. Voilà. On se quitte en musique.
Allez.
Nine in Palm Trees de Azu Tiwalin. Tripez bien. Et nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain. Des bisous, pardon.
Je coupe le micro avant de dire au revoir.
Ciao,
des bisous,
ciao.
Salut.